Et oui, et puis on va voir ce qui se passe surtout sur le web français. On a notamment autour de la table, donc on a Christophe Aguiton, on a Jérémy Zimmermann qu'on va présenter au fur et à mesure, puis on a Tanguy Morlier de Regards Citoyens. Il me semble que vous venez de lancer un petit quelque chose autour des lobbies. Vous nous en parlez?
Ouais, absolument. Et ben en fait, Regards Citoyens, on s'occupe des données publiques et notamment s'est intéressé à ce que faisait le Parlement français et notamment l'Assemblée nationale. Donc il y a à peu près un an et demi, on a sorti nosdéputés.fr pour savoir ce que faisaient nos députés. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait un acteur dans les parlements qui étaient les lobbyistes. Et les lobbyistes, Jérémy le sait bien d'ailleurs, c'est des gens qui font un travail de couloir, un travail pas forcément très visible. Et on s'est dit, est-ce que par hasard, les données publiques et les documents publics ne donneraient pas des informations sur leur travail ? Et on en a discuté avec des lobbyistes justement, dans une réunion comme ça, un peu informelle. Et il y a un lobbyiste qui nous a dit, bah écoutez, regardez à la fin des rapports parlementaires, vous allez voir, dans certains d'entre eux, il y a des annexes avec la liste des lobbyistes. Et on s'est dit, ah bah oui, cool, effectivement, il y a des trucs intéressants à sortir. Donc on a demandé, un petit peu comme OVNI avec leur application de l'eau, cet été, on a demandé à plein de gens de venir nous aider à numériser ces lobbyistes. Et effectivement, la semaine dernière, on a sorti un rapport avec Transparence Internationale France sur qui sont ces lobbies, comment s'effectue l'influence, parce que plus largement, c'est important de savoir comment s'effectue l'influence et comment nos députés prennent des décisions, parce qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions simplement entre eux, entre 577, il faut qu'ils demandent un peu à la société civile, aux entreprises, mais aussi aux associations, ce qu'elles pensent. Donc voilà, sur notre étude à regardscitoyens.org, vous pouvez voir exactement comment s'effectue l'influence dans le cadre de ces rapports parlementaires.
C'est-à-dire concrètement, quel député est en mèche ou en dialogue avec tel lobbyiste ?
Tel député, pas vraiment. Et la CNIL ne nous a pas donné encore l'autorisation de donner les noms des personnes qui ont été auditionnées. Mais par contre, quelle entreprise est intervenue sur quel thème, ça c'est particulièrement intéressant. Et puis quand on a une masse d'informations comme ça, puisqu'on a étudié 1200 rapports, et on a à peu près 15 000 personnes qui ont été auditionnées par l'Assemblée nationale, on peut faire des tendances. Alors typiquement, sur les sujets Internet qui nous occupent aujourd'hui, on remarque que les entreprises privées sont plus écoutées que la moyenne en général au sein du Parlement. Donc, et Jérémy, je crois, le connaît relativement bien, les associations sont en général pas énormément écoutées par rapport aux acteurs privés ou par rapport aux syndicats et organisations représentatives.
Ça permet au moins de faire cette échelle-là.
Exactement, parce qu'en fait, quand on regarde un peu les études de sciences politiques qui ont été faites, alors que le lobbying et l'influence a une place prépondérante dans la prise de décision publique, on s'aperçoit que personne l'étudie réellement et qu'il y a un vrai manque de transparence au sein de l'Assemblée. Donc voilà, on essaye d'apporter assez modestement et avec l'aide de milliers d'internautes notre pierre à ces réflexions importantes pour que nos institutions fonctionnent correctement.
Alors Jérémy, vous l'appelez par son petit nom, Jérémy Zimmermann qui est là.
Je pourrais l'appeler JZ en même temps, si JZ,
entre nous.
La quadrature du net. Vous, déjà, vous aviez envie de réagir, le côté potentiel révolutionnaire du web français, ça vous agace déjà, rien que ça.
Bah oui, sur le thème imposé du panel, potentiel.
Du panel.
Bonsoir,
c'est nous.
Tu préfères quelle boîte de conserve?
Révolutionnaire du web français. Alors déjà, le web français, moi, c'est un truc qui me fait un petit peu froid dans le dos, parce que pourquoi il faudrait des frontières à notre web? Voilà, on est tous quelque part citoyens de l'internet, qu'on soit français, allemand,
En Tunisie, c'est Ben Ali qui est parti.
Ensuite, le potentiel révolutionnaire, je suis pas sûr qu'il convient de parler du potentiel révolutionnaire du web. Parce que c'est pas en cliquant sur j'aime bien Kikoulol ou Google qu'on va faire des révolutions. Mais
dire que si je dislike aujourd'hui Gérard Longuet, je ne vais rien provoquer.
C'est pas pour autant que tu vas révolutionner Gérard Longuet, mais c'est plutôt en allant dans la rue, en jetant des pavés, en faisant des barricades, en risquant ta vie, et en des choses comme ça pour lesquelles le web va potentiellement vachement t'aider, que tu vas faire une révolution.
Et l'internet plus largement que le web en plus. Oui, ça se passe pas que après, sur HTTP.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui les gens disent web en parlant d'internet. Donc à la radio, on va faire comme si. Mais donc,
expliquez-nous, vous savez, Jacques Lang, qu'on a interviewé ici à Nova, nous disait appuyez sur Internet.
Encore plus vague. Bah, il devrait aller sur nosdéputés.fr et regarder son activité parlementaire, ce serait assez intéressant. Il y a
c'est
plein
quoi
de gens
l'activité de Jacques Lang alors que,
c'est un peu encéphalomagramme plat, malheureusement. C'est pas un parlementaire qui nous aide beaucoup sur notre site, parce que nous, on aime bien les parlementaires qui bossent. Ça nous apporte du contenu, ça crée du débat sur notre site. Et là, en l'occurrence, malheureusement, il participe pas beaucoup au débat parlementaire.
C'est le seul député socialiste qui a voté pour la DOPI, je crois.
Je ne suis pas sûr que ce soit le seul, mais c'est l'un des peu.
C'est un de ceux qui avait soutenu beaucoup la DOPI.
Donc en gros, on disait le web, on dit trop facilement que c'est juste HTTP, c'est beaucoup plus large, etc. C'est ça que vous aviez envie
Oui, non, au-delà de ça, j'aimerais bien comprendre le sujet. C'est est-ce qu'en France, avec Internet, on va aller faire une révolution? Est-ce que c'est ça la question qui est posée?
Est-ce qu'il y a un mouvement dégage qui peut venir du crowdsourcing, donc de la ressource de contenu que peut mettre en place Regard Citoyen, que ce soit pour surveiller les députés ou pour apporter des informations sur les lobbies?
Je pense que s'il y a une révolution possible, c'est plutôt dans l'appropriation que vont avoir les citoyens français grâce à Internet de la vie publique. Et ça se fait en faisant confiance aux citoyens, et que a priori, si on leur donne le droit de vote à ces citoyens là on peut aussi leur donner un petit peu plus de droits pour évaluer, pour donner leur avis, etc.
Mais
moi, un parallèle que je voudrais faire, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans le début des années 90 de la démocratie, si on faisait un parallèle avec Internet. C'est à dire que pour l'instant, il y a quelques geeks un peu...
C'est ce qui a été dit sur les données tout à l'heure. Ouais.
Exactement. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les données et les données libres, donc tout le mouvement Open Data. Et pour que chacun puisse s'approprier un petit bout de la démocratie, il faut faire en sorte de fluidifier cet accès aux données, aux documents publics. Donc... Dans les années 90, c'était l'avènement du logiciel propriétaire, le Windows un peu buggé, etc., etc. Et au début, au milieu des années 90, s'est popularisée une notion qui était déjà présente depuis un petit bout de temps, qui était le logiciel libre. Et je pense qu'on va vivre cette même mutation au niveau des données et plus largement au niveau de la démocratie. C'est-à-dire que les gens, plutôt que d'avoir une démocratie un peu fermée dans laquelle on puisse seulement appuyer sur un bouton, c'est-à-dire voter, tous les 5 ans pour les présidentielles, on va avoir une démocratie dans laquelle le citoyen va être beaucoup plus acteur s'il en a envie. Un petit peu comme dans Wikipédia, dans la majorité du temps, on lit ce qu'il y a dans Wikipédia, mais quand on en a envie, on peut apporter son savoir à l'intérieur. Et je pense que la prochaine révolution des démocraties occidentales, ce sera celle-ci.
Mais je pense que là, vous abordez un des aspects du web, et une de ses fonctions, et elle est tout à fait importante, c'est celle de renforcer, disons, la possibilité pour le citoyen d'appartenir à un espace public, de l'enrichir, de voir ce qui s'y passe, de pouvoir y apporter des informations et d'en retirer des informations. Et ça, c'est quelque chose qui est dès l'origine du web et de l'Internet. Je pense à Indymedia, qui avait rejoué ce rôle-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, l'aspect des données publiques permet, de cet amas de données qui est aujourd'hui mis à disposition, permet d'élargir encore le champ et d'avoir de plus en plus de domaines dans lequel, comme dans Wikipédia, et votre exemple est bon, le citoyen peut s'informer, apporter sa pierre à l'édifice, mais on est vraiment dans le domaine de l'espace public. Mais il reste tout un autre domaine qui est très important, qui est celui de la mobilisation collective. Et là, l'Internet joue un rôle un peu différent, qui est celui du lien entre les personnes. Donc là, on n'est plus dans l'espace public au sens mettre à jour des informations, permettre d'enrichir des bases de données comme nosdéputés.fr, ce qui est décisif, mais c'est de voir comment est-ce que l'Internet peut être utilisé comme un vecteur d'organisation, de mise en mouvement. Et là, moi, je partage tout à fait l'idée que le web et l'Internet en soi ne développe pas de révolution. C'est exactement comme si on disait que le train permet de faire une révolution, ce qui a été vrai pendant la révolution mexicaine, mais le train permet aussi d'aller travailler ou de partir en vacances. C'est pas en soi un vecteur de la révolution. L'Internet et le web, c'est pareil. Mais en même temps, il y a des choses qui changent avec l'Internet et le web. On l'a vu dans le monde arabe et dans toutes ces révolutions où les réseaux sociaux ont été clés. Mais même en France, et que ce soit la France toute seule ou la France connectée au reste du monde, des mouvements auraient eu beaucoup de mal à se structurer sans l'Internet et le web. Je pense au mouvement des chômeurs, au mouvement des sans-papiers, à tout le mouvement altermondialiste qui n'a pu exister au niveau international que parce que la liste mail, on parle de choses assez rudimentaires, c'est pas très sophistiqué, c'est la liste mail qui est au cœur de tout ça, mais ça a quand même changé beaucoup de choses dans l'apparition de nouveaux mouvements sociaux dans les années 90 et 2000.
Mais justement, ce qui ressort ici, c'est que c'est pas tant un web français avec ses frontières hexagonales
bien sûr.
Qui permettrait quelque chose, mais moi je vois quand on fait des campagnes au niveau européen avec la quadrature du net, c'est des gens dans une vingtaine des 27 États membres qui se saisissent des dossiers, qui se saisissent de nos matériaux de campagne, qui prennent leur téléphone, leur petit doigt boudiné sur la souris pour envoyer des emails, qui contactent leurs eurodéputés, et c'est tous ensemble qu'on arrive à mettre une pression sur le Parlement qui fait dire à l'eurodéputé de base qui n'a jamais entendu parler de nos sujets, oh là là, mais En fait, ça a l'air un peu important, ce truc.
Il se passe quelque chose.
On dirait qu'il y a un enjeu, il se passe quelque chose. Et c'est justement là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'on voit en face de nous, qui on a la plupart du temps, c'est des entreprises, des géants du divertissement, des télécoms ou des machins comme ça, qui eux n'ont absolument pas de notion de frontières, qui sont des entreprises transnationales. Avec Internet, on a justement cette capacité à s'émanciper des frontières. Et quand on parle des révoltes arabes, les gens qui ont eu l'occasion, grâce à Internet, voilà, de former une opinion publique, de la cristalliser, de s'organiser, etc. S'il n'y avait pas eu le reste du monde pour avoir accès à ces informations et pour constater ce qui s'y passait, peut-être qu'ils n'y seraient pas arrivés de la même façon. Et donc, c'est véritablement cette mise en réseau, à proprement parler, universelle, où on est tous un pair, au sens pair à pair, sur le réseau, qu'on soit en Tunisie, en France, en Allemagne, où que ce soit, qui fait que l'on a justement cette capacité à dépasser les pouvoirs en place et à changer la société.
On est de pair à pair, vous avez raison, mais on est aussi en lien et en articulation avec des grands médias. Hein, ne les oublions pas, ne les enterrons pas trop vite.
Non, mais Jérémy les a absolument pas. Voilà.
Ou dans le monde arabe, n'oublions pas Al Jazeera. C'est le lien.
Non, mais bien sûr.
Oui. Absolument. Sans Al Jazeera, les choses auraient été beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre.
Oui, la Revolution, elle était peut-être Televised. Hein.
Elle était, voilà, et Televised et Web 2. Elle était les deux à la fois, et cette articulation-là a produit un
effet. L'Internet permet d'activer et de réchauffer les gens pour qu'ils agissent, mais après, pour que ça passe à l'échelle, il faut effectivement un
dépavé.
Un émetteur, un entonnoir, un porte-voix,
un haut-parleur.
Merci. Et effectivement, ces haut-parleurs-là, en général, c'est plutôt les broadcasters et les médias importants. Et de la même manière que quand on a un article qui sort dans lemonde.fr, dans Rue 89, ou dans mon blog personnel que j'ai pas, et ben ça change quand même les choses. Donc sur Internet, on voit aussi émerger des médias un peu mainstream, comme Al Jazeera ou France Télévisions.
Alors, puisque on parle de cette prise de pouvoir entre guillemets par le citoyen, de s'occuper de s'interroger et de répondre à tout ce qui peut se passer. La question, c'est peut-être pas de savoir si le web français est plus ou moins révolutionnaire, mais en tout cas, est-ce que les usages du citoyen français aujourd'hui utilisent ces outils, se questionnent, prend pour lui vraiment ces possibilités-là ou pas, comme ça a été le cas.
Jusqu'il y a quelques temps, c'était plutôt des communautés qui s'organisaient. On l'a vu en 2005 autour de la Doua d'Afsi, avant sur la LCEN, donc sur les projets purement Internet, mais les écologistes sont aussi assez forts pour organiser s'organiser comme ça en réseau. Nous, on le voit aussi sur nos députés.fr, il y a par exemple les anti-pax qui s'organisent aussi. Alors, c'est pas du tout des idées que j'estime et que je défends, mais n'empêche que d'autres communautés s'organisent autour de ça. Et ce qu'on a maintenant l'impression qui émerge, c'est une organisation d'outils un peu plus génériques. Alors c'est ce qu'on peut faire à Regard Citoyen, c'est ce que fait la Quadrature du Net avec la mémoire politique. Bref, les citoyens commencent à s'outiller pour utiliser des outils numériques pour des campagnes précises fournies par des Greenpeace, dès la Quadrature du Net, mais ont envie d'utiliser ces outils-là pour de la militance ponctuelle.
D'ailleurs, vous ne nous avez pas expliqué ce que c'était que numériser un député, concrètement, si on veut le faire demain.
Alors, nous, on a proposé de numériser des lobbyistes, puisque c'était une information qu'on n'avait pas, et on savait qu'elle existait dans les rapports parlementaires. Pour les députés, c'était déjà numérisé par l'Assemblée nationale, donc c'était très pratique. On a regardé un peu comment était fait le site de l'Assemblée nationale, et puis on allait chercher les informations en entraînant des petits robots, en fait, qui vont toutes les 4 heures chercher l'information sur le site de l'Assemblée nationale. On va bientôt le faire pour le Sénat aussi, parce que c'est un peu injuste qu'on s'occupe que des députés, alors que les sénateurs ont aussi pas mal de pouvoir.
Et pour reprendre cette question, qui est de savoir si les citoyens s'emparent de l'Internet pour agir et s'organiser, il faut bien voir que le lien entre médias traditionnels et Internet joue de façon différente suivant la façon dont les médias traditionnels ont organisé les choses. Je m'explique en deux mots. 2005-2007. 2007, c'est l'élection présidentielle. L'offre politique est très large. Darlette Laguy, il y a Le Pen, tout le monde est présent. Il y a Bayrou, il y a le PS, le PC, le NPA, tout le monde est là.
Il y a Gérard Chiffon. Givardi.
Absolument, il y a Girardi, Givardi, tout le monde est là. Et l'Internet n'apporte pas un plus très significatif. L'Internet ne fait que prolonger ce que font les grands médias et ce que font les candidats. Par contre, 2005, c'est le débat sur le référendum sur la Constitution européenne. Et là, on a des médias qui, dans leur très grande majorité, comme la classe politique, est pour le oui. Or, le pays n'est pas pour le oui, comme le résultat du vote le montrera. Et là, c'est l'Internet qui va jouer un rôle considérable avec des gens inconnus, comme Étienne Chouard, qui était un peu la vedette de cette campagne, qui est un prof du petit, au sens un prof de secondaire, je veux dire, qui n'était pas particulièrement connu auparavant, mais qui a fait un travail très très important de décortiquer la Constitution. Et donc, on a eu une vie sur Internet extrêmement riche, parce que justement, ça correspondait à quelque chose que ne faisaient pas les médias traditionnels. Et je pense que ça va continuer à exister. C'est-à-dire, quand les médias traditionnels font leur boulot, d'une certaine façon, l'Internet existe, mais à sa place et sans changer qualitativement les choses.
Non, je suis pas trop convaincu par cet argument-là, parce que si on regarde les débats sur les Européens, sur le traité constitutionnel, il semble qu'ils étaient plutôt équilibrés sur Internet et que le problème
pas du tout. Pas du tout. Sur Internet, c'était le nom. Les médias,
parce que les médias, elles sont où ces études ?
J'abonde dans le sens de Christophe. C'est que nous, on fait ce genre de choses quand on va décortiquer une Adopi, une Lopsi, un paquet télécom ou des choses comme ça au niveau européen. Et c'est justement parce qu'Internet nous donne cette potentialité de le faire. Et Internet a été guidé par les nouveaux usages, par les nouvelles pratiques. Et tant qu'on a un Internet libre, ouvert, donc neutre, où chacun peut accéder à tous les contenus, services et applications, mais également en produire, on laisse la porte ouverte à ce que le prochain usage, le prochain crowdsourcing, ou appelons-le comme on veut, permettra à une population donnée, une communauté donnée, à un endroit donné, sur un dossier donné, de faire un travail qu'on n'avait pas prévu et qui va changer les choses. Et c'est ce potentiel disruptif de l'Internet qui permet littéralement de changer la donne, de changer le pouvoir et de faire évoluer la société.
Absolument,
à mon avis.
Parce que c'est une technologie pas chère, que tout le monde peut maîtriser. C'est ça qui explique pourquoi cette disruption est possible.
Donc,
c'est
aussi pour ça que ça explique. L'arrivée du nom serait liée comme ça au disruptif. C'est-à-dire
parce qu'il y avait la potentialité de le faire.
L'accès aux informations que les masses médias ne divulguaient pas.
Des gens se sont dit tiens on va le faire, l'ont fait et ça a servi, ça a été utile.
Et sur les révolutions arabes, je suis désolé, c'est pas parce que les médias étaient contre les révolutions arabes que ça s'est fait sur Internet.
Si, en Égypte et en Tunisie, les médias étaient pro-régime par définition.
L'Internet français était pro-révolution, donc je pense pas que.
Oui, mais quand vous parlez que arabe, ce qui est le cas de 90% des Égyptiens, bah leur presse, elle était aux ordres de Moubarak, donc c'est l'Internet qui a fait le pas de côté, qui a permis que les gens s'informent différemment.
Sur le traité constitutionnel, moi j'ai eu l'impression que c'était plutôt équilibré. Par contre, si on regarde médiatiquement, c'était totalement déséquilibré.
Oui, on est d'accord sur
et donc du coup, la distance était beaucoup plus grande.
Tout ce qu'on a pu voir, il y a même eu des études
de fait. Mais je suis pas du tout convaincu.
Il y a eu des études de fait sur le nombre de sites web. Il y avait vraiment pas photo. Hein. C'était les sites qui sont pour le nom.
Oui, oui.
Alors qu'en 2007, au contraire, c'était équilibré. Chaque parti avait ses sites web associés.
On en même temps, à un moment, Bayrou était un peu le candidat de la toile, hein, pour employer un mot très vintage. Et c'était un des premiers. Justement, à montrer son site internet, à être dans une campagne connectée, tout ça. Gros fail, hein.
Attends, au premier tour des présidentielles, il a fait un score qui n'a jamais été égalé depuis.
Oui. C'est le deuxième tour qui le tue.
Ils ont tous fait beaucoup de com, à l'époque. Loïc Lemaire avec Sarkozy, Ségolène avec
chacun avait son côté innovant. Il y en a un qui a fait la vidéo, l'autre qui a fait du collaboratif et l'autre qui était le candidat de l'internet.
Donc, ce qui fonctionne, en fait, c'est quand c'est vraiment, on va dire, sincère et citoyen et qu'il y a du partage de contenu dont on a l'impression qu'ils ne sont pas en circulation dans les médias traditionnels.
C'est ça, et puis surtout quand c'est le seul moyen de s'organiser, je pense aux Égyptiens et aux Tunisiens qui n'avaient que ça. Hein, ils avaient la télé qui pouvait voir Al Jazeera et ça a aidé, mais chez eux, ils n'avaient que ça.
À partir du moment où ça reste de l'Internet, où on a accès à Internet, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit dans sa décision au sujet de l'Adopi, quand il disait aujourd'hui la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à Internet, quand on a accès à Internet, on a ce potentiel de participation démocratique et quelque chose qui était peut-être un petit peu inaccessible, un petit peu vain avant Internet, mais qui fait que chacun a littéralement son mot à dire, la possibilité de le dire, et lorsqu'il y a quelque chose à dire, une caisse de résonance sans précédent, et c'est ça qui sera potentiellement à l'origine des changements politiques futurs.
Et pour donner une anecdote, avant dans le passé, c'était au XXe siècle, quand il y avait une révolution, la première chose que les révolutionnaires ou l'État contrôlaient, c'était la télévision, les gares et le téléphone, au sens le central téléphonique à fil. Aujourd'hui, c'est la première chose dont se sont occupés les régimes autoritaires, c'est de couper l'Internet et le téléphone sans fil. Donc on voit bien là qu'il y a eu une évolution quand même assez profonde des vecteurs de la mobilisation.
Et on aura une petite pensée pour Jean Sarkozy, qui a un peu fait les frais de cette histoire, avec le fameux hashtag sur Twitter, Jean Sarkozy partout, qui a permis de faire ressortir un peu le fait qu'il était en train de s'immiscer un peu partout. partout. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que c'était aussi un exemple de cette potentialité-là.
Un exemple de fail.
Ouais, un exemple voilà. de fail. Voilà.
Sarkozy partout.
On en parlera tout à l'heure des fails. D'Éric Cantona, entre autres, hein, et du No Sarkozy, tous les fails en France. Merci beaucoup à tous. Hein. On avait avec nous la quadrature du net, incarnée par Jérémy Zimmerman, alias JZ, si j'ai bien suivi, Tanguy Morlier pour le collectif Regard Citoyen et donc Numériser les lobbyistes. Allez-y. Christophe Aguiton d'Attaque, mais pas que. Hein. Vous avez vu, il connaît beaucoup de choses.
Dégage. OVNI rencontre Nova. Une soucoupe, une étoile, une nuit, un sujet. Dégage.